Envoyez-vous, chasseur oriental. J'ai repris totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'île de Koumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la clinique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Créée en 2002 pour, par les statuts des Roms, la Cour pénale internationale a pour mission de juger les crimes des guerres et crimes contre l'humanité commis par des tiers sur les différents territoires des pays signataires de ce texte afin de sécuriser ces territoires et mettre fin à l'impunité due à la faiblesse de la justice de certains de ces pays. À ce jour, la RDC compte 5 de ses ressortissants détenus ou jugés à la haie pour des crimes commis soit sur le sol congolais ou à l'étranger. Que pensez-vous de l'impact du travail de la Cour pénale internationale sur le rétablissement de la sécurité en RDC? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines coordonnés par J.R. Lungembo. Julie Feza Bongonda est à la réalisation, Alain Goy à la mise en onde et Pierrot et la main, je vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèle auditeur, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous faisons le point avec vous, fidèles auditeurs, sur l'impact du travail de la Cour pénale internationale sur le rétablissement de la sécurité en RDC. Il y a des affaires qui touchent les Congolais qui sont cités devant la Cour pénale internationale. Nous en parlons avec vous. En sommes-nous aujourd'hui avec toutes ces affaires, l'avenir par rapport à d'autres éventuelles affaires qui touchent la RDC. Tout cela est abordé dans cette émission. Nous recevons pour vous Paul Madidi, qui est chargé de communication de la Cour pénale internationale ici en RDC. Paul Madidi, vous êtes avec nous dans ce studio. Merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de l'évolution du travail de la Cour pénale internationale et surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, j'évoquais que 5 ressortissants de la RDC sont soit détenus ou jugés pour les affaires commises sur le sol congolais, tout comme à l'étranger. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces affaires qui sont citées devant la Cour pénale internationale?
Merci pour la question. Je commence par M. Lubanga. Vous savez, il avait été déjà condamné en 2012. La chambre d'appel a confirmé donc ses les, non seulement le verdict, mais également la peine. Donc, bientôt seront prises des décisions allant dans le sens de d'exécuter les réparations pour les victimes. Il reste maintenant à savoir comment ces décisions vont être orientées. Hein. Les juges doivent prendre maintenant, doivent décider de la manière dont ces réparations seront conduites.
Mm-hmm.
Ça, c'est pour M. Lubanga. En ce qui concerne M. Katanga, là, l'affaire est complètement close. Il n'y a pas d'appel, d'ailleurs, en ce qui concerne M. Katanga, ni du côté du procureur, ni celui de la défense. Donc, l'affaire est complètement close. Pour ce qui est de M. Mbujolo, il y a des procédures en appel, notamment du bureau du procureur. La chambre d'appel donc va se prononcer, même si M. Katanga avait été déjà reconnu non coupable, donc acquitté. Pour ce qui est de M. Bosco Tanganda, le procès va commencer en juin 2015, donc il faut attendre. Il est reconnu coupable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour ce qui est d'autres affaires, notamment Mouda Chumura, Sylvestre Mouda Chumura, un des responsables de FDLR, évidemment, il doit d'abord être exécuté, il doit d'abord être arrêté et amené devant la Cour pénale internationale. Le mandat d'arrêt, en ce qui le concerne, est toujours en cours, en fait. Voilà donc ce que je peux dire par rapport aux personnes actuellement, aux suspects ou aux accusés actuellement devant la Cour. Évidemment, il y a l'affaire Bemba qui est pratiquement terminée. On attend de ce côté-là le verdict dans un délai raisonnable.
Mmh. Il faut préciser pour les auditeurs que l'affaire Bemba ne concerne pas la RDC.
La RDC, oui, voilà. Mmh. Mais dans l'entretemps, le bureau du procureur continue à travailler. Il suit de très près ce qui se passe, principalement dans le Kivu. Là aussi, comme je vous ai dit, il y a déjà, pour les enquêtes qui ont déjà commencé ou qui concernent le Kivu, et qui concernent les allées crimes commis par les FDLR, il y a déjà eu des mandats d'arrêt. Calix Mbanshimana, mais aussi Sylvestre Mudashimura. Mais le bureau du procureur continue à travailler et suit de près ce qui se passe dans cette partie du pays.
On a vu plusieurs personnes, Human Rights Watch par exemple, qui souhaitaient que la CPI se penche sur les cas des derniers massacres à Beni au Nord Kivu. Plus de 200 personnes ont été tuées par de présumés rebelles des ADF au Ougandais. Est-ce que ces massacres sont aussi concernés par quand vous dites que la CPI suit, est-ce que cela est aussi...
Oui, tout à fait. La Cour pénale internationale suit ce qui se passe, mais pour ce qui vient de se faire là, il y a maintenant depuis quelques semaines déjà, il est vrai que ça ne fait pas encore objet des enquêtes du procureur, mais cela est suivi de près par le bureau du procureur.
Mais quand on regarde...
Et donc, ça pourrait aboutir effectivement à des enquêtes de la part du bureau du procureur.
Le cas Lubanga, il a été condamné et vous avez dit le cas Katanga, le dossier a été clos totalement, c'est dans le sens de l'acquis, il a été reconnu non coupable.
Monsieur Katanga a été reconnu coupable plutôt.
Monsieur Katanga
n'est pas acquitté.
Il n'est pas acquitté.
Il n'a pas été acquitté. Il a été reconnu coupable.
Y compris Lubanga qui.
Y compris Monsieur Lubanga. Mm-hmm. Au fait, Monsieur Lubanga avait déjà été reconnu coupable des crimes d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, leur conscription et les avoir fait participativement au conflit. Et pour cela, il avait été condamné de 14 ans, hein, évidemment moins les années qu'il a passées déjà en détention. Il y a eu des procédures en appel. Sa défense avait introduit un appel pour contester sa culpabilité, alors que le bureau du procureur avait, lui, introduit un appel pour réclamer une peine plus lourde, compte tenu des circonstances aggravantes, etc. Le bureau du procureur réclamait plutôt une peine plus lourde, plutôt que les 14 ans qu'on avait.
Voilà. Mais quand on regarde
la chambre d'appel, la chambre d'appel a confirmé, malgré les appels des deux camps, la chambre d'appel a plutôt confirmé la décision déjà prise, c'est-à-dire le verdict et la peine.
Mais quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la situation sur le terrain, parce que le débat aujourd'hui c'est de savoir si ce qui est fait par la Cour pénale internationale peut avoir des répercussions sur ces problèmes des crimes en RDC particulièrement, quand on voit l'ampleur de massacres qui ont été commis dernièrement au Nord Kivu, est-ce qu'au niveau de la CPI, pensez-vous vraiment que les affaires qui sont citées, les verdicts, tout cela peut avoir vraiment l'impact sur cette situation d'insécurité qui s'installe quand même dans la région?
Le travail de la Cour, c'est évidemment avec d'autres organisations comme la MONUSCO, etc., c'est de contribuer à un rétablissement de la paix, de la sécurité en République démocratique du Congo. La justice également doit être prise en compte comme un élément qui vient solidifier, renforcer la paix, la sécurité dans un pays. Il ne faut pas l'écarter. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui peut-être, on n'en voit peut-être pas les conséquences directes, mais demain, les historiens vont le dire, vont expliquer de la comment toutes les organisations qui travaillent actuellement au Congo pour renforcer la paix, pour renforcer la sécurité, etc., comment ces organisations, donc la CPI aussi, a contribué d'une manière ou d'une autre au rétablissement de la paix et de la sécurité. Oui, je dis que le travail que fait la CPI, le renforcement de la... le fait de parler de la justice, de poursuivre les auteurs des crimes graves, contribue d'une manière ou d'une autre au rétablissement de la paix et de la sécurité. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ituri, par exemple. Le fait d'avoir jugé et reconnu coupable certains de personnes qui étaient impliquées dans ce qui s'est passé dans la région, a d'une manière ou d'une autre aussi apaisé les tensions. Voilà.
Merci, nous avons Maître Patrick Mbujima à Lukasa Oriental, Maître Timothée à Bandundu-Ville et Omar ici à Kinshasa, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à l'impact du travail de la CPI sur le rétablissement de la sécurité en RDC.
Parole aux auditeurs.
Maître Patrick, vous êtes en Bujumaï, au Kassai Oriental, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Gilles Lungembo.
C'est Pierrot et la Mégie. Maître, vous avez suivi l'introduction, les précisions avec notre invité. Notre souci, c'est de voir comment le travail que fait la CPI peut arriver effectivement à contribuer au rétablissement de la sécurité en RDC. Quel est votre point de vue?
Ah ben mon point de vue est tout à fait contraire, alors vraiment contraire, parce que je doute, et j'ai des arguments pour cela, je doute que la CPI soit à même de rétablir la sécurité en RDC et dans quelque autre pays que ce soit. Et je veux dire pourquoi. Parce que la CPI, en fait, est en train d'agir au niveau de la sanction, c'est-à-dire elle sanctionne les personnes qui ont pris les armes, les personnes qui posent des crimes, hein, des actes de génocide et tout ce qu'on veut, qui relèvent du droit international, mais sans tenir compte des causes, hein, de tous ces crimes-là. On va me dire, bien sûr, que cela ne relève pas de sa compétence, parce qu'elle a une structure juridictionnelle, mais moi j'ai envie de dire aussi que cette CPI n'est pas que juridictionnelle, elle est d'abord politique. Et je veux dire pourquoi elle est politique. Elle est politique tout simplement parce qu'elle se caractérise par une certaine... ses caractéristiques sont personnelles, sélectives, hein, ce qui est vraiment une contradiction avec les institutions judiciaires nationales. Hein. Et je me dis qu'elle devrait être impersonnelle générale. Mais c'est que ces pays, apparemment, elles ciblent les États africains. Et puis, il y a des dossiers que nous voyons qui traînent. Hein. Je suis juriste, je suis avocat et je sais de quoi je parle. On va dire, par exemple, que ça ne relève pas du Congo, mais cela peut nous inspirer parce que ça nous intéresse au plus haut point, parce que c'est un acteur politique de notre pays. Moi, je peux vous dire en tant qu'avocat et sans crainte d'être contredit que ce dossier est vide. Alors, on se demande depuis 6 ans qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, en gros, je dis que la CPI ne peut pas résoudre les problèmes, parce que les fondements de tous les problèmes que nous avons ici, toutes les guérillas, tous les mouvements armés, ont une racine politique. Et cette racine politique, c'est souvent l'illégitimité des chefs d'État que nous avons dans nos pays. Alors, cette illégitimité-là, nous savons d'où est-ce qu'elle vient. Hein? Et ça n'engage que moi. Je dis l'illégitimité de tous les chefs d'État ont une origine occidentale. Et il s'est fait curieusement, ces pays ont une origine occidentale. Alors moi, je veux qu'on pose les vraies questions pour avoir les bonnes réponses et finalement des bonnes solutions. Je dis, la CPI devrait être impersonnelle pour qu'on puisse lui conférer notre crédit. Mais pourtant, le fait qu'elle cible que les Africains nous donne de penser qu'elle est l'outil de l'occidentalisme
Maître Patrick me parle fait, par exemple, pour le cas de la RDC, vous l'avez suivi avec notre invité, par le fait que des personnes qui sont reconnues coupables des crimes graves, que vous pouvez reconnaître que voilà, ces personnes en RDC, ils ont commis des crimes graves, ils peuvent être jugés et condamnés. Pensez-vous que le fait que ceux qui ont commis des crimes reconnus parce qu'il y a des victimes et qu'ils sont condamnés, cela ne peut pas contribuer à côté des autres institutions au rétablissement de la sécurité, au-delà de toutes les considérations sur les caractères politiques ou personnels de poursuites, Maître Patrick?
Non, justement, je dis que toutes les condamnations qui émanent de la CPI ne peuvent pas avoir un caractère dissuasif, parce que les causes, c'est-à-dire les vraies raisons qui poussent tous ces mouvements armés à naître et à agir et à commettre tous ces crimes, ont un fondement politique. Je dis, aujourd'hui, on peut éliminer tous ceux qui sont en train de commettre tous ces crimes de guerre, mais je vous dis, immanquablement, il y aura de nouveaux groupes qui naîtront, tout simplement parce qu'ils auront contesté la légitimité de ceux qui sont au pouvoir.
Voilà.
Je me dis, c'est un cycle infernal. Moi, je pense que la vraie solution d'ordre juridictionnel, le vrai problème est d'ordre politique. Si seulement nous pouvions avoir, nous les États africains, les coudées franches pour pouvoir nous organiser sans l'impérialisme occidental, que nous ayons la possibilité de choisir nos dirigeants nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas. Les élections que nous rencontrons partout en Afrique, là, ben, les résultats ne sont pas toujours authentiques. Je ne vais pas entrer dans des exemples qui peuvent être sujets à caution, de soulever des débats ou heurter certaines sensibilités. Moi, je dis, le vrai problème, la vraie solution ne sera pas juridictionnelle, elle ne viendra pas. La sécurité ne viendra pas de la CPI, mais seulement de la liberté pour le
peuple. Merci beaucoup, Maître Patrick.
Leur propre dirigeant.
Merci, Maître Patrick. Vous estimez qu'on ne peut pas résoudre le problème, que ce soit en RDC, le rétablissement de la sécurité, il faudrait, à côté du travail de la CPI, mais c'est mieux de penser aux causes, que vous considérez que c'est plus l'illégitimité de ceux qui dirigent dans la plupart des pays africains. Si le problème politique n'est pas résolu, la justice ne pourra pas venir résoudre carrément ce problème. Merci beaucoup, Maître Patrick, de nous avoir appelé d'Mboujimaï. Nous avons encore notre avocat, je crois bien, c'est Maître Timothée qui est à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous les visiteurs. Mon avis, par rapport à celui qui venait de le dire, dans la mesure où moi je pense que la CPI contribue au maintien de la paix en RDC. Dans la mesure où les auteurs de crimes sont finis. Mais ce que je regarde un peu, c'est que je regarde un peu par rapport à la CPI. Donc, au niveau de la CPI, c'est comme s'il y a une injustice ou il y a un problème politique. Parce que ce n'est pas tous les gens qui commettent les crimes de guerre sont poursuivis et arrivés. Et pour que ces pays arrivent à tenir la paix, pour qu'il y ait le succès de la paix à travers toute la RDC et tout le monde en général, la CPI, donc les actions de ces pays devaient être suivies par tous les États. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple de l'indicité. C'est souvent les Congolais qui sont poursuivis. Mais quand un Rwanda vient à commettre en RDC, il ne peut pas être poursuivi. Or, si le Rwanda signait ces actions-là, les Rwandais viendront faire des ordres et se seront poursuivis. Autre chose, c'est le problème de la police. Vous verrez que même les chefs de qui sont en train de commettre des crimes ne peuvent pas être poursuivis directement à la mesure où ils sont au pouvoir. On a tellement les sections au niveau des institutions. Le président qui est installé à la CPI, mais dans l'été de l'hiver, donc c'est comme si la CPI est en train de suivre des gens qui ne sont pas au pouvoir.
Alors, au-delà du fait que votre ligne pose des petits soucis, Maître Timothée, vous êtes à Bandundouville, mais vous avez un avis contraire. Vous avez dit, contrairement à ce que dit Maître Patrick, pour vous, le travail de la CPI contribue au maintien de la paix. Mais vous estimez que pour aller plus loin, il faudrait que la plupart, tous les autres pays puissent arriver à ratifier, à signer les statuts. Sinon, ça sera difficile, par exemple, pour un Rwandais qui aurait commis des crimes au Congo, qu'il soit poursuivi par la CPI, parce que le Rwanda ne fait pas partie du statut de Rome, et là, ça va être difficile, mais vous évoquez aussi également le problème des chefs d'État, quand ils sont en exercice et qu'ils commettent des crimes, ils se couvrent, ça sera difficile qu'ils soient poursuivis, mais du moins pour la RDC, vous estimez que d'une manière ou d'une autre, cela contribue au maintien, au rétablissement de la paix. Merci beaucoup, Maître Timothée de Bandundouville. Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, la Mégé, bonjour à l'invité.
Donc, vous avez suivi, le Maître Patrick estime que, aussi longtemps que le problème politique n'est pas résolu, il sera difficile aujourd'hui que la CPI contribue effectivement au rétablissement de la situation, de la sécurité. Maître Timothée lui pense au contraire qu'au-delà du fait qu'il y a des pays qui ne font pas partie du statut de Rome, ça sera difficile de rendre le travail de la CPI plus efficace, mais aussi les cas qui touchent le chef d'État. Mais du moins pour la RDC, le travail contribue quand même au rétablissement de la paix. Quel est votre point de vue, Maître Omar?
Merci beaucoup, Pierrot, du verbe Parvo Mabudje. Je salue M. Madidi et je fais d'abord mienne les interventions pertinentes et les déshonorés et estimés confrères qui ont précédé. Et je voudrais rappeler à tout le monde qu'il était vraiment important de créer une structure internationale qui puisse lutter contre les violations des droits de l'homme en temps de guerre et en temps réel. Comme l'émission d'aujourd'hui est évaluative, moi je pense à mon avis, Pierrot, que les bilans de la CPI sur son action à RDC, puisqu'il s'agit d'un cas spécifique, est mitigé. Donc il y a des aspects positifs qu'il faudra féliciter et des aspects négatifs qu'il faudra décrier et changer. Premièrement, moi je pense que le premier aspect positif qu'il faut démontrer, c'est que les arrestations de certaines personnalités criminelles ont pu dissuader les autres. Parce que le rôle d'une sanction, c'est de dissuader les éventuels qui voudraient, n'est-ce pas, faire le même acte. Deuxième chose, ces différentes actions de la CPI ont permis de mettre hors d'état de nuire les criminels qui ont, n'est-ce pas, détraqué l'est de la RDC. Et enfin, je pense que l'autre aspect positif, c'est que ça permet de protéger les victimes. Mais là où les bas blessent et l'aspect négatif, c'est que il existe dans les statuts de Rome une disposition qui prévoit l'assistance des victimes. Et il y a quant à fait un budget qui doit être prévu. Mais jusqu'à ce jour, on n'entend pas cet aspect. Donc il y a non-assistance des victimes sur le plan financier. Il existe un bureau qui prévoit les statuts qui dit qu'il faudra soutenir financièrement, mais jusqu'au jour, je n'existe pas. Lors des ateliers de la CPI tenus en 2012, nous avons évoqué cela, mais je ne sais pas si à ce jour, ça continue toujours à manquer. Deuxième chose, il n'y a pas une réelle protection des témoins. Il existe aussi des dispositions des statuts qui disent qu'il faudra protéger les témoins. Mais lorsque vous faites un tour sur le terrain, beaucoup de témoins sont victimes des assassinats puisqu'il n'y a pas un mécanisme de sécurité de ces témoins. Et je voudrais citer sur le plan négatif pour une certaine politisation de la CPI. J'ai rejoint la maître Patrick qui a parlé à premier lieu. Nous remarquons que cette cour a été créée pour les faire. Je prends le cas depuis que ça existe, nous sommes le pays le plus poursuivi. Or, il existe un mécanisme dans la CPI qui permet d'attaquer même les États qui n'ont pas signé. Mm-hmm. Ce mécanisme dit, la CPI doit saisir le Conseil de sécurité pour attaquer même le pays non signataire. Nous avons commis des violations flagrantes des droits de l'homme en Syrie, en Russie, en Côte d'Ivoire, mais certains coupables sont encore dehors. Mais lorsqu'il s'agit de la RDC, on voit la CPI sortir de ses griffes. Nous décrions vraiment cet aspect politique. Et pour finir, puisqu'il n'y a pas assez de temps, moi je pense que cet état des choses où ne permet pas à un réel impact de l'action de la CPI en RDC. Premièrement, il faudra rappeler que, bien que le statut existe, il faut une réelle volonté des États eux-mêmes. Je vous donne un cas. Monsieur El-Béchir était ici. Selon les statuts, il a fallu qu'on puisse l'arrêter. Mais la RDC n'a pas voulu coopérer et rien n'a été fait. Il faudra que chaque État signataire de la CPI puisse avoir la volonté. Aussi longtemps que cette volonté n'existe pas, les États feront tout à leur aise. Je vous renvoie encore à l'histoire. Lorsqu'il fallait arrêter Monsieur Bosco Kaganda, la RDC avait refusé à l'époque et on n'a pas pu mettre la main sur lui. Donc il y a des aspects qui ne permettent pas à la CPI d'être réellement sur le terrain. Et je voudrais aussi finir avec mes propositions. Premièrement, je pense, Pierrot, puisque la CPI ne dispose pas d'une armée pour mettre la main sur les criminels, il faudra qu'on puisse reviser les statuts comme on l'a fait en 2013. Prévoit une disposition qui dit que lorsqu'il y a un criminel, c'est l'État qui plus s'en occupe. Parce que si on confie toujours la responsabilité aux États, ces derniers font ce qui semble bon et lorsqu'ils refusent, la CPI est inactive. Je voudrais finir pour demander à chaque État, particulièrement la RDC, de renforcer ses cours des tribunaux. Parce que, nombreux ignorent, la CPI n'intervient que de manière complémentaire, c'est-à-dire lorsque les États au niveau interne n'ont pas été en mesure de poursuivre, lorsqu'ils décrivent une mauvaise foi. Ce n'est qu'en ces cas que la CPI peut intervenir. Mm-hmm. Moi, je pense que si les cours des tribunaux congolais
travaille sérieusement. D'ailleurs, la constitution, les défenses permettent à notre État d'appliquer les statuts de Rome. Jusque-là, il n'y a qu'une jurisprudence, je me souviens, en 2011, qui a pu condamner. Donc, si nos cours et tribunaux travaillent bien, je pense que le travail serait
mieux. Merci.
Merci beaucoup, Omar.
Merci beaucoup, Omar. Point positif, point négatif, mes propositions. D'abord, en ce qui concerne la coopération, vous estimez qu'il y a des États qui ne voudront pas arrêter les ressortissants ou les ressortissants des autres pays qui seraient sur leur sol, autant mieux confier, réviser les statuts et confier cette mission d'arrestation au casque bleu parce que les États ont tendance à ne pas coopérer pleinement. Merci beaucoup, mais vous avez estimé aussi que le renforcement des cours des tribunaux nationaux peut faire assez qu'on puisse réduire, hein, n'est-ce pas, le travail de la CPI dans le pays. Merci beaucoup. Nous allons écouter Serge qui est à Béni. On va revenir à notre invité pour placer un mot par rapport à toutes ces préoccupations des auditeurs. Serge, vous êtes à Béni. On vous dit bonjour.
Bonjour, merci.
Oui, Serge, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute, Serge.
Merci. De prime abord, à ma qualité de jeune ambassadeur de la paix, membre d'Action pour la paix en Afrique basé ici à Béni, je voudrais reconnaître le travail de la CPI en RDC dans la lutte contre l'impunité, notamment lorsque ceux-ci, Congolais, sont à la haie. Je crois que pour les auteurs de crimes graves contre l'humanité, c'est parmi les solutions de soulagement lorsqu'on sait que son bourreau est, par exemple, ou un présumé auteur est arrêté, il est gardé dans une prison de haute sécurité. Par ailleurs, je suis d'accord avec les Congolais qui pensent que nous devons plus investir dans le renforcement de notre appareil judiciaire en RDC. C'est que il faut pas toujours penser que l'étranger pourrait bien régler nos conflits. L'important ici, c'est que le gouvernement congolais doit s'investir pour mettre tous les moyens à la justice congolaise en vue de mettre fin à l'impunité, à la corruption qui gangrène dans l'appareil de notre juridiction, aussi encourager ceux qui travaillent pour la justice en RDC. En fait, par rapport au défi de la CPI, je reconnais surtout le lenteur dans le traitement des dossiers, notamment les enquêtes, la poursuite même des auteurs, pour santé, ça crée une certaine impatience dans les chefs des auteurs. Voyez-vous, aujourd'hui, à Béni, plus de 270 personnes massacrées pendant 2 mois, et la réponse de la CPI, non, c'est pas encore, on attend encore. Jamil Mukulu, le chef, le commandant du mouvement terroriste ADF, a été déclaré depuis 2000, je crois, 4, avec son ADF sur la liste spéciale des terroristes par les États-Unis. Mais jusqu'à présent, aucun mandat d'arrêt contre lui. On s'est dit, aujourd'hui, si aussi il y a un problème de la persistance de l'ADF à Béni, c'est aussi parce que la chaîne de commandement, je vais dire, de ces mouvements terroristes est encore fonctionnelle. Un autre cas, les ex-M23 qui sont censés, pour la plupart de ces leaders, être arrêtés jusqu'à présent en Ouganda avec ce qu'on signale, un mouvement qui serait pénétrer ici à Béni pour encore renforcer l'insécurité. Je crois que la CPI, par rapport à ses compétences, doit être...
Alors, Serge, vous estimez que vous avez voilà. Oui, ça je sais que vous évoquez. Vous pensez le fait que le traitement des dossiers à la CPI, ça prend tellement du temps et cela permet que d'autres personnes puissent continuer à se lancer dans l'insécurité. Vous avez évoqué cette situation pénible pour la population des Béni, plus de 250 personnes qui sont décédées et vous estimez que ça prendra du temps. Vous aurez souhaité voir la CPI tout de suite là, se lancer dans les enquêtes et permettre à ce que les gens soient arrêtés. Mais pour vous, le fait que le responsable des ADF n'a jamais été inquiété ou n'a pas été arrêté, c'est là consolide encore davantage sa position sur le terrain et la poursuite de massacres. Merci beaucoup Serge, mais au-delà de tout, il faut renforcer la justice nationale. Zachary, vous êtes à Kananga, Daniel Abumbashi, gardez la ligne, nous allons vous accorder la parole, 081-890-6315.
Au
Radio-Cathy Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi et nouvelles du site web de Radio-Cathy. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et le Massé Sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Écoute Histoire. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Paul Madidi, vous avez suivi tous les compatriotes qui sont intervenus pour cette première vague de auditeurs. Il y en a qui saluent le travail fait par la CPI, mais on estime aussi que le renforcement de la justice nationale, c'est cela, est important. Mais il y a quand même des points évoqués avec précision. Et quand Maître Patrick estime que si les raisons politiques qui causent tous ces troubles qui amènent les gens à commettre ces crimes ne sont pas résolus, le travail de la justice ne pourra être que superficiel. Omar, lui, avec beaucoup de précisions, il a évoqué des cas négatifs qui font que la coopération entre la CPI et les États ne peut pas permettre aujourd'hui à celle-ci d'être plus efficace. Voilà un peu ramassé dans l'ensemble des préoccupations des auditeurs.
Oui. Il faut effectivement renforcer la justice, l'appareil judiciaire national. La Cour pénale internationale est complémentaire. Elle ne peut pas juger, on le dit tous les jours, elle ne peut pas juger de tous les cas. Elle se concentre sur les cas les plus graves, considérés comme étant les plus graves. Mmh. Le reste devant être fait par les juridictions nationales. C'est pour ça qu'il faut renforcer, il faut former les juges, les magistrats, il faut voter la loi de mise en œuvre du statut de Rome pour que la justice nationale reprenne certaines situations que la Cour ne pourrait pas, par exemple, ne pas regarder. Il est vrai que dans ce qui s'est passé ou dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a une pesanteur politique qui aboutissent à des conflits, etc. Mais dans le rétablissement de la paix, dans le rétablissement pour un retour de la sécurité, de la paix, etc., il ne faut pas, je pense et je le souligne, il ne faut pas écarter l'aspect de la justice. Mmh. L'aspect de la justice, non pas nécessairement pour faire réconcilier les seigneurs de guerre, mais les populations, les communautés qui étaient pendant longtemps ennemies, qui se regardaient en chaîne de faïence. Il y a des actions à travers, par exemple, les réparations qui peuvent se faire pour renforcer ce besoin de vivre en communauté ou de vivre comme dans le temps passé. Et ça, la Cour pénale internationale contribue à cette réunification des populations, réunification des esprits, à remettre les gens en commun, de la même manière que font les autres institutions comme la MONUSCO et d'autres institutions qui travaillent pour la paix. Ces institutions-là sont peut-être dans travail sur le plan peut-être politique, etc. Et nous, on travaille pour le retour de la paix, mm-hmm. pour le retour de la sécurité sur le plan judiciaire.
Il y a Omar qui a évoqué l'assistance des victimes, la protection des témoins, et il estime que la CPI n'en fait pas assez pour permettre à ce que les autres personnes puissent dénoncer des cas de crimes. Est-ce que vous avez cette impression qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits pour assister les victimes, tout comme protéger les témoins?
Bon, il évoque peut-être d'autres cas, enfin certains cas qui sont peut-être arrivés, etc. Mais de manière générale, je pense que le travail que fait l'unité de protection des témoins et des victimes doit être souligné ici. De gros moyens sont mis pour protéger des témoins, pour donner assistance aux victimes. y a tout un fond au profit des victimes qui est là aussi pour venir en aide aux victimes. Donc je crois qu'il est un peu hasardeux et pas correct du tout de dire que rien n'est fait en faveur des victimes.
Non, il n'a pas dit que rien n'est fait. Il estime que ce qui est fait ne pas peut-être penser qu'il fallait que ce soit fait. Mais c'est là que vous avez évoqué. Mais heureusement, on peut faire cette conception.
Disons que je voudrais dire il ne faut pas prendre peut-être sur 10 cas, épingler juste un cas qui était arrivé peut-être. Et encore qu'il faut donner les détails là-dessus, hein, en parler en profondeur, mais il ne faut pas, je pense, généraliser parce qu'il est arrivé un cas malheureux pour généraliser et dire que rien n'est fait ou la sécurité en faveur des victimes ou des témoins est mal suivie et mal faite. Non.
Mais il y a cette conception, beaucoup d'auditeurs sont revenus, même ceux qui ont déposé des commentaires sur la page Facebook reviennent sur ce qu'ils considèrent comme les interférences politiques hein, au niveau des chefs d'État pour rendre plus efficace le travail de la CPI. Ils ont évoqué des cas des chefs d'État qui devaient en principe être poursuivis. On a vu la CPI a eu tout le mal du monde hein, pour qu'ils soient arrêtés, convoqués et tout cela. Et ça donne l'impression d'une cour qui travaille plus pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être poursuivis, cela veut dire ceux qui n'ont pas le pouvoir. Comment on peut arriver à changer cette perception par rapport au comportement revenant sur le chef d'État?
Il y a, vous voyez, d'un côté, les gens veulent qu'on poursuive même des chefs d'État qui sont soupçonnés d'avoir commis des fautes, mais il y en a, vous entendez, notamment le premier, qui pense qu'on ne poursuit que des Africains, etc. Non. Il faut rendre justice quand il le faut. Et la Cour pénale internationale ne met pas de gants quand il faut poursuivre des auteurs des crimes, fussent-ils des chefs d'État. C'est pour ça qu'il faut que il aurait fallu que l'ensemble de la communauté internationale, africaine notamment, parle le même langage. Que la société civile africaine également soit suffisamment forte et prenne conscience des souffrances des victimes pour que même des chefs d'État puissent répondre de leurs crimes, de leurs faits. C'est là tout le drame de notre continent, de nos pays. Bon, il y a peut-être pas suffisamment une voix forte de la société civile. Il y a peut-être pas aussi un soutien suffisamment fort des sociétés civiles pour soutenir la Cour pénale internationale dans son travail, etc. Mais nous, on fait ce qu'on peut pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité, poursuivre des personnes ayant une responsabilité dans les crimes commis en Afrique, fussent-ils chefs d'État, etc. Vous parlez par exemple du cas de El Béchir. Bon, il y a un mandat d'arrêt, mais si certains chefs d'État de la région ou des pays de la région font une solidarité entre chefs pour se soutenir entre eux, que peut la Cour pénale internationale si malheureusement elle ne peut compter que sur la coopération des États. Et si entre-temps les sociétés civiles regardent et ne disent rien, au contraire critiquent la Cour pénale internationale, l'action de la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que la Cour peut faire? Elle n'a pas d'armée. Les textes qui régissent la Cour pénale internationale disent que elle ne peut que compter sur la coopération des États.
Et si les chefs d'État se protègent les uns les autres, il sera difficile alors que même la population puisse comprendre d'autres actions de la CPI auprès des citoyens.
Voilà. C'est pour ça qu'il faut que la société civile prenne conscience et que ceux qui deviennent chefs d'État aient peur, craignent, ce que pourrait dire, ce que pourrait faire la société civile.
Mmh. Il y a Serge Debeni qui a revenu sur la lenteur des procédures, des enquêtes. Lui, il estime que quand on regarde l'ampleur du massacre, par exemple, à Beni, et qu'on dise que non, attendons, on va lancer les enquêtes. Cela peut faire que les gens se consolident encore à commettre le mal, mais dommage que le procédé ne peut pas être changé brusquement.
Non, d'abord, comme je l'ai souvent dit, il ne suffit pas juste en deux semaines dire tiens voilà, on a arrêté telle personne qui est soupçonnée. Non, il faut en plus avoir des éléments de preuve à amener devant des motifs suffisants de croire que telle personne a commis des crimes. Il faut donc une descente sur le terrain. Des enquêtes doivent être menées, à apporter des éléments à présenter aux juges qui, eux, à leur tour, prendront la responsabilité d'émettre des mandats d'arrêt. Tant que ce travail n'est pas bien fait, on risque d'aboutir à une situation où il n'y a pas de preuves suffisantes, il n'y a pas de procès, et donc pas, rien n'est fait. Il faut des éléments d'information, des éléments de preuves suffisamment forts, étayés, à présenter aux juges. À leur tour, ils prendront la décision de mettre un mandat d'arrêt, peut-être aboutir à un procès et peut-être condamner la personne ou le suspect.
Il y a ingénieur Zachary qui est à Kananga, Daniel Albumbashi, Léon Abouta. On a quelques messages. Francis Mbompo estime qu'il sera difficile pour nous. Il ne sera pas aisé de se prononcer sur le fonctionnement et sur la neutralité de la CPI ainsi que ses procédures sans être branché à certaines réalités de la politique internationale vu la manière dont les enquêtes sont menées et les gens sont poursuivis. Serge Mapendano de Beni, le travail de la CPI contribue un peu à la lutte contre l'impunité en RDC, mais ses actions sont tellement lentes en dépit des moyens robustes à sa disposition. C'est pourquoi notre pays doit s'investir pour un pouvoir judiciaire national fort et indépendant au service du peuple sans beaucoup compter sur la justice internationale. A dit Rolu Roger, la Cour pénale internationale est une institution d'injustice des pays, des grandes puissances du monde, disons des pays occidentaux. Donc si un président africain est contre les pays occidentaux, alors on estime que sa place est là, à la haine. Pour lui, il estime que c'est plus pour poursuivre les Africains. Maître Bob Malo, Timothée de Bandondouville, on l'a eu tout à l'heure, il a continué pour dire qu'il faudrait aujourd'hui poursuivre ceux-là qui commettent les crimes qui sont aussi en dehors du continent africain. John Gassangi de Kikuit, la RDC a raison d'avoir un nombre élevé de détenus à la CPI vu le taux élevé de la criminalité sur son territoire. Et pensez-vous aussi que la loi d'amnistie protège-t-elle les commanditaires des guerres contre pour qu'ils ne soient pas poursuivis par la CPI? Voilà, c'est la question qu'il vous pose. Mais il y a aussi Mike de Kinshasa qui pose la question de savoir sur les cas Jean-Pierre Bemba qui est détenu à la CPI. Alors, on voit Jean-Pierre Bemba détenu à la CPI, mais qui continue à diriger son parti politique et prendre des décisions, qui prévoit les statuts par rapport à un détenu et son influence et l'exercice d'autres fonctions en dehors de sa détention. Voilà, les deux questions avant qu'on écoute d'autres auditeurs. Paul Madidi, il y a la question de John sur la loi d'amnistie, les lois qui sont votées, par exemple celle votée en RDC. Est-ce que cette loi protège les gens pour qu'ils ne soient pas poursuivis par la CPI? Et la question des actes posés par Jean-Pierre Bemba à partir de sa cellule de détention à l'AE.
Avant de répondre à ces deux questions, parce qu'il y en a toujours, c'est la même chose, on poursuit toujours les Congolais, les Africains, etc. Prenons le cas de Beni. Voilà bientôt quelques semaines que chaque jour on ramasse des corps, des pauvres gens qui ne demandent qu'à vivre tranquillement en paix, tués à la machette sans raison, on ne sait pas. Faut-il, oui ou non, poursuivre les auteurs de ces crimes? Faut-il les laisser tranquilles quand notre propre justice n'est pas en mesure de le faire? Faut-il les laisser tranquilles? Il y a eu quelques années, c'était une autre forme de violence, c'était les viols, la République démocratique du Congo était devenue la capitale mondiale de violences sexuelles, ce n'est pas par hasard si on a un Mukwege qui est aujourd'hui appelé réparateur des femmes. Ce n'est pas par hasard si on a aujourd'hui une des plus grandes missions de maintien de paix en République, plutôt dans le monde, la MONUSCO en l'occurrence. Parce que il s'est passé des choses dans ce pays. Faut-il, oui ou non, laisser ces auteurs des crimes tranquilles? Et quand la Cour pénale internationale, créée justement pour juger ces personnes-là qui ont commis ces crimes, intervient, on crie, on dit qu'on en fait trop, on ne poursuit que les Congolais. Non, je crois qu'à un moment, il faut arrêter ce type de discours. Il ne faut pas gober, j'ai envie de dire bêtement, le discours que certains groupes, certains soi-disant africanistes font passer dans l'opinion. Non, posons-nous de vraies questions. Avons-nous dans nos pays d'Afrique assez de moyens pour poursuivre les auteurs des crimes commis dans nos pays? Regardez ce qui s'était passé en République centrafricaine. L'Afrique, on était presque impuissant à regarder ce qui se passait, sans intervention. Faut-il, oui ou non, laisser ces gens-là continuer à se tuer, etc. La Cour, justement, aide à juger, contribue ou aide ces pays-là, surtout qui sont tapés. La Cour est sollicitée par ces pays-là même. Mm-hmm. La Cour aide à juger ces personnes-là.
Mm-hmm. Bon. La question, c'est la loi d'amnistie.
Oui. Alors, peu importe la loi d'amnistie qu'on prend ou de les avantages qui peuvent profiter à certains suspects, mais si la Cour émet un mandat d'arrêt contre ces personnes-là, en principe, ces personnes doivent répondre de leurs crimes devant la CPI. Peu importe le fait qu'ils aient pu bénéficier dans leur pays
d'une amnistie, voilà.
Ou qu'ils sont passés entre-temps général ou président de la République. Non, ça, peu importe dans leur qualité officielle, ils doivent répondre des crimes devant la CPI, en principe, ils doivent le faire, ils doivent répondre de leurs crimes.
Mmh. Ouais. Et la préoccupation sur les actes posés à partir de sa cellule à La Haye, vous avez un mot à dire par rapport à ça, à ce qui concerne
Jean-Pierre Bemba? En principe, il n'y a pas incompatibilité. Que M. Bemba pose des actes politiques par rapport à son parti politique ou même à sa famille, ça ne regarde pas la Cour pénale internationale. Du moment que ça n'entrave pas le déroulement du procès, ça ne met pas en danger les victimes ou les témoins, ça, il n'y a pas incompatibilité, ça ne gêne pas la Cour pénale internationale, le travail de la Cour.
Voilà.
Voilà.
Nous avons encore un autre groupe d'auditeurs sur les antennes, c'est Zachary est à Kananga, je crois bien. Zachary, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour, ingénieur Zachary.
Bonjour, Pierrot, bonjour.
On tend vers la dernière partie de cette émission. On vous écoute, Zachary, rapidement, au-delà de tout ce qui a été déjà évoqué dans cette émission par d'autres compatriotes.
Oui, merci. Conformément à sa mission, qui est celle de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par des structures différentes de l'histoire des pays mondiaux, celle de sécurité de guerre, on a dit que le travail de la sécurité de la vie.
Oui, Zachary, mais là on a des petits soucis hein, avec votre ligne, on ne parvient pas vraiment à vous suivre. Dommage, Zachary. Malheureusement, la qualité de l'intervention entre Kananga et Kinshasa pose des petits soucis. Mais en attendant, on va à la Lubumbashi où se trouve Daniel. Daniel, vous êtes avec nous de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez suivi les uns les autres, on tend vers la fin de cette émission. Quel est votre point de vue?
Je voulais dire ceci. Pierrot, au début, la CPI avait suscité de l'espoir pour le peuple africain. Mais à voir actuellement l'évolution des choses, moi personnellement, Pierrot, je suis déçu par la CPI. Parce que la CPI était créée pour pallier aux insuffisances des juridictions nationales. Pourquoi? Parce que ces juridictions nationales ont montré leurs limites parce qu'elles sont soumises à des régimes en place pour la plupart de nos pays africains, dont la RDC, notre pays, Pierrot. Ma déception vient du fait que la CPI, non seulement répond à un état impérialiste, du fait qu'elle ne s'occupe que des Africains, et ferme l'œil sur, par exemple, des massacres israéliens sur la Palestine, mais elle n'a pas les moyens de sa politique, par exemple. La CPI aujourd'hui, Pierrot, est devenue comme une justice de vainqueurs. Hein? Le pouvoir en place ne livre que des personnes dont il veut livrer. Si je prends l'exemple de la RDC, Bosco Ntaganda. Le gouvernement congolais n'a pas voulu les livrer quand la CPI les demandait, soit disant que Bosco Ntaganda contribue à la paix selon les dires de Lambert Mende sur les ondes. Mais on a vu que par après, Bosco Ntaganda a tué les gens à Nipouri, il a tué les gens avec le CNDP, il a tué les gens avec le M23. Mais quand il s'agissait de livrer Fidel Babala qui est de l'opposition, vous avez vu la promptitude avec laquelle ça a été fait. Et vous avez posé une très bonne question à l'invité Paul Madidi. À savoir, hein, vous avez, en ce qui concerne la livraison des gens qui sont au pouvoir, la discuté quand la CPI, et vous avez dit que c'est l'aspect d'impuissance que l'invité a monté, parce que la CPI se montre incapable à pouvoir récupérer les gens dont les pouvoirs en place ne veulent pas livrer. Et comme proposition, pour la crédibilité de la CPI doit changer ses statuts. Par exemple, obliger les États à livrer les personnes qu'elles recherchent. Sinon, si les pays ne veulent pas les livrer, il y ait des sanctions aux pays réfractaires. Voilà un peu ma proposition.
Voilà, merci beaucoup, Daniel. Vous dites que la CPI est en puissance incapable. On l'a dit tout à l'heure, la CPI n'arrête pas. Elle coopère. Alors, c'est une coopération avec les États. C'est pourquoi vous estimez que les statuts soient changés et que si un pays refuse de coopérer pour livrer son ressortissant ou quelqu'un sur son sol, qu'il y ait des sanctions comme ça, qu'il y ait une mesure contraignante. Sinon, ça sera difficile que les criminels soient poursuivis si ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas livrer ces criminels. Merci beaucoup, Daniel. Léon, vous êtes à Bouta. On vous écoute, Léon. Bonjour.
Merci pour m'avoir donné la parole.
CPI,
et mettre l'espoir à ces pays pour dire que ces pays peuvent stabiliser une région. Vraiment, nous avons déjà la confiance à 30%. Pourquoi? Parce que le fait qu'on n'en aura plus jamais la politique qui vise l'intérêt de la nation. Or, c'est celle qui stabilise une région. La cause des troubles dans un pays, la cause des désordres dans notre pays ici. C'est lorsqu'il y a la politique de détail de mesures. Les gens sont protégés par la politique. Prenons le cas par exemple du Congo. Il y a IRCD ici. Combien ont tué ici? Et ils ont aujourd'hui même le pouvoir. Ils gèrent des institutions, ils gèrent des ministères, ils gèrent des partis politiques. Mais ils sont libres. Mais on voit seulement les maillons faibles. Si la CPI pouvait poursuivre aussi la cause de ces troubles-là, qui approvisionnait les armes? Ça venait dans quel pays? Ah, c'est prenant le gars Thomas Lobanga. Est-ce qu'il avait l'argent? Il avait les industries. Par quel canal il possédait des armes? Prenons le cas des empires Bemba. Si réellement la CPI pouvait stabiliser une région après l'arrestation. Après l'arrestation de Bemba pour le cas de Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé à Centrafrique? Est-ce que réellement il y a eu la paix, il y a eu la stabilité? Que la politique puisse laisser cette institution libre de travail et que cette institution puisse rompre d'abord les cordons ombilicaux avec la politique, peut-être la CPI pouvait stabiliser ou pouvait donner une...
Merci. Merci beaucoup, Léon, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps, mais je retiens, vous estimez d'abord que les politiques doivent laisser la CPI travailler librement, qu'elle ne soit plus sous les instructions des politiques. Cela peut l'aider à contribuer au rétablissement de la sécurité de la paix. Merci beaucoup, Léon. Nous avons Maurice qui est ici à Kinshasa pour terminer. Maurice, en une minute, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, Pierrot, je pense que mes prédécesseurs ont dit presque l'essentiel. Nous déplorons en fait cette politique de déploiement des mesures appliquée par la CPI ces derniers temps. Nous ne pouvons pas comprendre au souhait. Par exemple, dans les cas de la Côte d'Ivoire, dans les camps de Bagbo comme dans les camps de Ouattara, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Mais aujourd'hui, nous voyons que Bagbo et nous voyons que les gens qui ont été avec Bagbo qui sont déclarés ou réclamés par la justice internationale à travers la CPI. Il y a aussi les cas de Bosco Ntaganda, comme mes compatriotes l'ont bien peigné, qui ont été protégés par un régime. Et ce régime, jusqu'à aujourd'hui, doit être notifié aussi, parce qu'ils ont entravé quand même la justice internationale. Et dans ce rôle-là, cette justice aujourd'hui doit faire quelque chose pour quand même crédibiliser quand même son instance. Et
Vous avez composé une question que mon prédécesseur disait à poser. Thomas Lubanga, où est-ce qu'il aurait pris de l'argent pour, par exemple, acheter des armes? Et nous avions suivi qu'il a joué le rôle d'intermédiaire. C'est lui, en fait, qui a mené, qui fournissait les armes. Et bien, des armes sont venues quelque part.
Alors,
l'opinion nationale et internationale voudrait aussi savoir le rôle de la CPI par rapport à ces gens-là, aux commissaires, aux autres commissaires.
Vous estimez, Maurice, vous estimez, Maurice, parce qu'on doit terminer. Voilà, on doit terminer par là, le temps que l'invité puisse conclure cette émission. Vous estimez que le travail ne doit pas, au niveau de la CPI, être fait seulement pour ceux qui sont arrêtés. Il faut dans les enquêtes qu'on puisse aller plus loin. Si Thomas Lubanga a été arrêté, il faudrait qu'au niveau de la CPI, qu'on mène des enquêtes, qui le fournissait des armes, avec qui il travaillait. Voilà un peu ce travail dans la globalité qui doit être fait. Mais aussi, quand il y a entrave, si vous estimez qu'on n'a pas livré Bosco Taganda en son temps, c'était une entrave à la justice internationale. Voilà autant de questions qui sont posées. Paul m'a dit, je reviens à vous. Je comprends quand on écoute les uns les autres, cela veut dire qu'au niveau des procédures, au niveau même du texte qui des statuts de Rome tel qu'il est ratifié, signé par les chefs d'État, il y a déjà des points qui font aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas faciliter le travail de la CPI et par conséquent, la population ne pourra pas comprendre plus facilement ce travail. Au-delà de toutes les frustrations qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Parce que les gens sont revenus sur les questions qui ont été déjà évoquées.
Encore une fois, c'est il faut savoir respecter les engagements qu'on prend. Hein. La plupart des questions tournent un peu autour de ça. Il faut savoir respecter les engagements qu'on prend. Les pays africains signent, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la Cour. Et puis, pour une raison, pour une autre, ils se rétractent. Ce n'est pas le problème de la CPI. Le ridicule se trouve de quel côté? Est-ce du côté de la Cour ou plutôt des pays qui ont pris l'engagement de faire quelque chose et qui ne le font pas? Ce n'est pas du côté de la Cour. La Cour laisse les pays souverains. Dans leur indépendance, dans leur souveraineté, ils doivent prendre, ils doivent respecter
leurs engagements.
Engagement.
Beaucoup estiment qu'il fallait même, si c'était possible, que les textes soient revus pour qu'il y ait des mesures contraignantes, sinon bon, les gens vont continuer à croiser les bras.
Ça, c'est le rôle, ça revient aux États partis de décider ou pas de rendre les textes plus coercitifs. Ce n'est pas à la Cour de décider de rendre ces textes-là coercitifs. Ce n'est pas le rôle de la Cour. La Cour exécute le statut de Rome tel qu'il a été décidé par l'Assemblée des États partis, les juristes, les créateurs, etc. Et c'est tout, on s'en tient là.
Merci beaucoup, Paul Madidi, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de la communication de la CPI ici en RDC. Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire cette émission. Vous allez la retrouver sur www.radiotapi.net. Au revoir.